Donc oui, j'invite donc Emmanuel Bermès qui est là, Romain Julliard, Emmanuel Poirot, Olivier Baud et Bruno Dosseur à s'installer. Plus particulièrement aux structurations possibles et puis pour comme un prélude à la suite du réseau Participarc. Et donc vous le voyez, nous accueillons donc Emmanuel Bermès, Bibliothèque nationale de France, la BNF. Donc Romain Julliard, tu fais un petit coucou Romain, voilà Romain, Centre d'écologie des sciences de la conservation MNHN, Emmanuel Poirot, voilà, Fondation des sciences du patrimoine, Olivier Baud, Humanum, et Bruno Dosser, relais Sciences Le Dôme. Alors, quand on a préparé cette table ronde, je vous avais demandé de réfléchir plutôt à ce que pouvait être un réseau autour des recherches culturelles et sciences participatives, aux conditions pour que ce réseau fonctionne, aux structurations possibles et puis aux engagements de la structure dans ce réseau. Donc, je vais vous laisser parler pendant 5 à 7 minutes. Alors, Yves Mathieu n'est plus là, si ? Je peux utiliser le sablier. Alors, le sablier fait 10 minutes, mais donc, voilà, avant que ça soit terminé. Et c'est vrai que ça évite d'agiter des papiers, de dire stop, de crier dans le micro. Et donc, on va commencer par... par qui on va commencer ? J'ai Olivier Baud, Humanum. Voilà. Donc, hop. Et donc, avant la fin du sablier. Non, il me faut 25 minutes, 7 minutes. Mais bon. Merci.
Bien. Merci beaucoup. Et c'est un honneur pour moi de... parler devant vous et devant ce sablier que je vais essayer de respecter, mais c'est un bel outil. Je dis ça parce que je vais peut-être avoir un propos un tout petit peu décalé. Je vais juste parler de là où je suis, c'est-à-dire en tant que directeur de la TGR Humanum, donc de cette infrastructure de recherche et qui est dédiée aux humanités numériques. Alors, vous avez eu au début des travaux une présentation de la TGR. Là, je vais essayer plutôt de répondre un peu aux questions qui se posent, effectivement, sur quelle structuration pour la suite. Mais encore une fois, de ce point de vue, à la fois des humanités numériques et d'une infrastructure de recherche. Alors, quand je dis des humanités numériques, c'est parce que ça me semble intéressant de voir que dans les humanités numériques, les sciences participatives sont présentes dès l'origine et à différents niveaux. D'une part, par par la qualité qui est apportée, le soin qui est apporté, le regard sur la gestion des données de la recherche, et notamment actuellement sur ce grand mouvement qui est d'avoir des données qui soient facilement repérables, accessibles, interopérables, réutilisables. Et donc tout ce travail sur les données de la recherche, ça produit évidemment derrière des lourdes questions sur le collaboratif et au-delà sur le participatif. Mais aussi parce qu'il y a des outils numériques qui favorisent ce travail-là et que c'est ceux qui sont mis en place notamment dans les infrastructures et surtout parce que l'enjeu de la masse de données à traiter nécessite de travailler ensemble avec de nouveaux modèles aussi, de nouveaux modèles, de nouvelles pratiques et de nouveaux modèles économiques. Et enfin, parce que les sciences humaines et sociales, au sens large, ont elles aussi des démarches, des cadres épistémologiques et théoriques qui sont intéressants depuis longtemps. Je pense à l'observation participante, je pense aux démarches éthiques, je pense à l'engagement du chercheur et du citoyen. Voilà. Et enfin, aussi parce que la diffusion de la recherche... qui est un élément important des sciences humaines et sociales, implique une communication scientifique qui dépasse et qui est une pratique culturelle et qui dépasse une simple communication entre pairs. Voilà pourquoi, à mon avis, les humanités numériques ont des choses à dire dans les recherches culturelles et les sciences participatives. Et voilà aussi pourquoi les infrastructures de recherche peuvent peut-être avoir un rôle à jouer. Alors quand je dis infrastructure ici, comme la TG Rumanum, c'est parce que dans la définition même des infras, dans la feuille de route française et européenne, c'est prévu que ce sont des dispositifs qui sont pour des communautés, mais qui doivent être ouvertes à d'autres communautés et au-delà des communautés, qui doivent pouvoir fournir des services pour des utilisateurs au sens très large et qui doivent également mettre à disposition des données. Or, quand je regarde ce qui se passe dans les projets de recherche qui participent pour le coup à la TGR Humanum, je vois qu'effectivement, ce qui est mis en place, ce sont des réseaux, donc des réseaux de chercheurs, mais au-delà, des réseaux où il y a des projets de sciences participatives. Hein, on l'a mis, quand il y a une plateforme en ethnologie qui met en place des outils où tous les citoyens sont amenés à travailler sur des documents numérisés, on est dans les projets participatifs. Il y a également des services numériques qui sont développés dans ce cadre-là. Et il y a aussi des réseaux qui sont mis en place, des réseaux au-delà des frontières disciplinaires et des frontières politiques, voire géopolitiques, dans le cadre d'infrastructures internationales. Humanum est en lien avec 3 de ces infrastructures, par exemple. Donc, si je regarde ce qui est l'apport d'une infrastructure ici, c'est une infrastructure qui va permettre la constitution de ces réseaux et permettre le travail collaboratif avec une volonté forte de monter en qualité dans les données qui sont gérées et dans les données au sens large, dans les données de la recherche, publications comprises, qui vont être signalées, qui vont être trouvables, qui vont être fouillables et qui vont être réutilisables. Et là on s'oriente aussi vers une prise de conscience du participatif. La nouvelle forme que prend le moteur de recherche Isidore, si on regarde comme un moteur de recherche actuellement, est d'une part sur le web de données, mais d'autre part sur la mise en place de réseaux sociaux de chercheurs et de diffusion plus collaborative. Donc une infrastructure dans la suite peut être utile à une démarche comme celle qui existe ici, notamment pour construire de la confiance. C'est ce qui était apporté tout le temps, de la confiance technique, de la confiance juridique, j'allais dire de la confiance de politique de la recherche aussi, de la confiance parce qu'il y a de la stabilité. Hein, les infrastructures européennes, ça met 20 ans à se mettre en place. J'espère bien que les TGR aussi sont là pour apporter cette confiance. Et donc cette confiance, elle est disponible dans des périmètres bien au-delà, pour la TGR Humanum, de son propre périmètre qui est le SR en SHS français, puisque on est dans des collaborations. Et donc il y a des possibilités et l'infra est là pour travailler vous sur des expertises, sur des partages d'expériences, mais aussi sur la mise à disposition de services et voire d'instruments de financement. Je pense notamment à des objets qu'on regarde assez précisément chez nous, qui sont les sociétés coopératives d'intérêt collectif, où on peut avoir dans le même projet chercheurs, entreprises, associations, citoyens, dans une démarche participative. Je vous donnerai dans ce cadre-là un dernier exemple de ce que peut développer une infrastructure en appui à de telles démarches. C'est celui de l'infrastructure de recherche Opéra, qui a pour mission de réunir des chercheurs, des bibliothèques et des éditeurs autour des enjeux de la communication savante en SHS. Et quand je vois la mise en place de cet ERIC, dans cette infrastructure européenne, je vois que Humanum participe à la mise en place de la première brique. La première brique, c'est une plateforme de découverte. Et cette plateforme de découverte, c'est un projet européen qui vient de se lancer, qui s'appelle le Triple. Cette plateforme de découverte, elle permettra non seulement de donner accès à des publications scientifiques, à des jeux de données, à des chercheurs, à des réseaux, à des projets, mais aussi de mettre en place des plateformes de financement collaborative, des outils d'annotation, de visualisation et des systèmes de recommandation et des systèmes de confiance partagée pour la mise en place de réseaux. Donc voilà en gros ce qu'une infrastructure en recherche peut apporter aujourd'hui comme perspective et soutien dans une initiative telle que celle qu'il y a ici. Je pense que j'ai laissé 3 minutes, mais ça va être compliqué de gérer la suite par contre. Non, là, ça va être bon, là. Hop.
Oui, ça va. Alors, peut-être Emmanuel Poirot.
Bonjour à tous. Je vais profiter un petit peu du temps qui va être supplémentaire par rapport à mon prédécesseur, du fait de la lenteur du sablier à s'écouler. Je suis directeur général de la Fondation des sciences du patrimoine. Donc, je ne vais pas vous présenter la structure parce que ça prendrait trop de temps par rapport au temps qui m'est imparti. Je vous invite à aller voir sur notre site internet. Mais je vais concentrer mon échange avec vous sur un projet concret qu'on a pu accompagner dans le cadre de la Fondation des sciences du patrimoine, qui est les testaments de Poilu, que vous connaissez sans doute, peut-être, vous en avez entendu parler. Il a été assez médiatisé et il y a eu pas mal de communication dans les colloques et autres. Donc ce projet qui est associé l'Université de Cergy-Pontoise, les Archives nationales, l'École des Chartres et les Archives départementales du 78, avec comme support de travail les testaments de Poilu, présents dans les minutiers centrales des notaires, aux Archives nationales et dans les Archives départementales. Le travail préparatoire qui avait été mené par le centre Jean Mabillon de l'École des Chartres avait permis déjà de travailler sur 100 testaments. La première phase du projet que nous avons accompagné permettait de mobiliser des bénévoles pour le dépouillement des fonds, leur transcription et l'édition numérique des nouveaux testaments. C'est aussi une occasion de réappropriation du patrimoine par le grand public. La mise en place de méthodologies a été nécessaire pour assurer le dépouillement des minutiers notariales par des personnels qui n'étaient pas, des bénévoles qui n'étaient pas du tout formés pour ce genre de travaux. Et donc, il y a eu une formation accélérée à la recherche archivistique. Il y a eu tout un travail de numérisation par le service des archives nationales. Et donc, une réalisation de plateformes de transcription du texte et encodage en format XML et TEI. C'est vraiment l'apport que la Fondation des sciences du patrimoine a pu faire dans ce projet, en permettant le recrutement d'un ingénieur dédié au développement de cette plateforme. Donc, ceci s'est suivi d'une mise en place d'une méthodologie dans la transcription pour des non-spécialistes, avec la création d'un tutoriel assuré par les archives nationales et les historiens et autres archivistes impliqués dans le projet. Il y a eu aussi tout un processus de validation des transcriptions, et l'insertion, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, de nouveaux acteurs, d'archives départementales autres que le 78, et surtout l'insertion du projet lui-même dans des réseaux français et internationaux. Je pense notamment au consortium Cahiers, Corpus d'auteurs pour les humanités, informatisation, édition, recherche, où la responsable du projet Poilu a travaillé dans le groupe de travail crowdsourcing. Et le dernier point, et non le moindre, et je reviendrai dessus, c'est quand même tout l'aspect communication autour du projet. Parce que nous avons pu bénéficier de retombées médias assez importantes, mais tout ceci a été l'objet d'un gros travail des services de communication des partenaires impliqués. Et ça sert, cet aspect, je dis qu'il est important, parce que ça sert aussi la motivation des personnes qui sont parties prenantes dans les transcriptions. Donc, le bilan et le développement de ce projet, c'est que on a pu mobiliser déjà plus d'une dizaine de bénévoles pour le dépouillement des testaments et leur identification. La plateforme développée a été sous licence libre, et donc elle est hébergée par la TGIR Human NUM. Et donc à ce jour, nous avons plus de 177 testament traité et versé. Les questions techniques, des problèmes, il y en a bien eu. Nous avions des compétences avec un laboratoire en informatique qui était partie prenante au consortium, qui a pu participer à la résolution de ces problèmes. Des questionnements juridiques aussi se sont posés. Quel est le statut des contributeurs et de leurs contributions, puisque ce sont des bénévoles. Donc la solution a été de mettre en place une charte des contributeurs. Cette charte a été rédigée par le service interministériel des archives départementales. Et nous avons aussi là-dessus suivi les recommandations de la CNIL sur l'identification des contributeurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est tout l'aspect formation, avec les ateliers de formation qui ont pu accompagner 260 inscrits. Donc tout ça a permis de montrer la faisabilité d'un projet qui était quand même assez exigeant et complexe, et nous a permis de lancer une deuxième phase de développement qui est actuellement en cours et qui assure une valorisation pédagogique de tout ce travail auprès d'étudiants en licence et master de l'Université de Cergy-Pontoise et de l'École des Chartes. L'amélioration de la plateforme, donc on a eu des retours d'expérience par rapport aux utilisations faites et donc des résolutions, des modifications techniques ont été apportées, mais aussi le développement d'une application pour permettre la restitution des travaux dans une édition numérique accessible tant à la recherche qu'au grand public, avec une appropriation améliorée. Et c'est là-dessus que le deuxième financement de la Fondation a été apporté par l'apport de compétences en médiation numérique. Donc tout ceci s'est aussi fait avec l'insertion dans des réseaux de sciences participatives, dont le réseau Participart, qui a émergé en même temps que les travaux de Poilu avancés. Donc voilà, on a eu une concordance des travaux et des calendriers qui s'est trouvée très opportune. Et le projet est vraiment devenu un objet de référence et de réflexion sur certaines pratiques, puisqu'il a soulevé plusieurs questionnements sur le partage des innovations à apporter, la plateforme que nous avons pu développer, les aspects juridiques que nous avons pu traiter, apporter les solutions qui répondaient à des besoins ponctuels. Nous espérons que ce travail pourra être partagé dans un cadre structuré et permettra ainsi un gain de temps et la mise en place de guides de bonnes pratiques. Et ce qui prouve qu'un réseau doit réussir à recueillir les expériences et les outils de projets similaires à celui que nous avons pu accompagner, et aussi peut-être apporter des aides au montage de projets par justement ces retours d'expérience et la façon de les communiquer auprès des autres initiatives. Donc j'avais insisté sur l'aspect communication, il y a aussi un gros travail je pense à faire là-dessus pour continuer à mobiliser des bénévoles et aussi à gratifier, à leur apporter une reconnaissance par rapport au travail fourni. Et quant à la structuration, je pense que je vais laisser la question ouverte. Est-ce qu'on doit se raccrocher sur une structure déjà existante ou partir d'une structure nouvelle? La question sera sans doute posée lors des échanges. Voilà.
D'accord. C'est un nouveau format.
Donc Emmanuel Bermès, vous en prie.
Voilà, donc Emmanuel Bermès, moi je me positionne du point de vue de la Bibliothèque nationale de France, donc d'une institution patrimoniale. Et en tant qu'institution patrimoniale, on a un rôle de transmission du patrimoine dont on a la garde et puis dont on assure la collecte auprès d'un public qui est à la fois le public des citoyens, c'est notre vocation de Bibliothèque nationale, mais qui est aussi un public qui est assez cadré par le contexte législatif, puisque le Code du patrimoine, qui nous a confié la mission de dépôt légal d'un certain nombre de documents, en particulier tout ce qui est livres, revues, documents audiovisuels sur support, et puis depuis 2006, tout ce qui est communication en ligne. Ce dépôt légal inscrit dans la loi le statut de chercheur accrédité, puisqu'il dit que les documents que nous conservons au titre du dépôt légal sont consultables dans les emprises de la bibliothèque par ces chercheurs accrédités. Alors, au regard de la science participative, évidemment, ça pose la question de qu'est-ce que ça veut dire accréditer un chercheur pour consulter ses collections. Alors, cette question, elle devient encore plus épineuse ou aiguë dans le monde numérique, où à partir d'une collection qui s'est accumulée depuis en gros François Ier, même un petit peu avant, mais enfin si on parle du dépôt légal, on constitue donc une collection qui se veut représentative du paysage éditorial de la nation et qui ne fait pas de jugement de valeur critique sur l'intérêt documentaire ou scientifique ou artistique de ce qu'on conserve. Le principe du dépôt légal, c'est de conserver tout l'ensemble de la production. Donc, dans un monde numérique, on a été confronté à deux changements. Le premier, c'est la naissance de la bibliothèque numérique en ligne, Gallica, qui existe depuis 1997 et qui aujourd'hui est riche de 5 millions de documents, qui ne sont pas que des documents de la BNF, mais aussi des documents de ses 400 partenaires qui contribuent aussi à enrichir Gallica. Donc, c'est un énorme réservoir de documents, une masse qui est accessible en ligne. Et puis, je vous parlais de cette loi de 2006 qui nous permet de collecter le web, enfin, de créer en tout cas une archive du web au titre du dépôt légal. Donc, cette archive web qui représente aujourd'hui un pétaoctet de données. Eh bien, ces collections numériques qu'on a constituées depuis plusieurs années sont maintenant atteint une masse critique commencent à susciter l'intérêt de chercheurs. Je me charge de retourner le sablier. L'intérêt de chercheurs qui souhaitent les étudier de façon computationnelle. Alors on parle d'étudier les collections comme des données, c'est-à-dire que on va vouloir les analyser avec des outils informatiques, faire de la fouille de texte, de la fouille d'images, de la visualisation de données, ce genre de choses. Et dans ce domaine-là, la co-construction entre la bibliothèque et les chercheurs est absolument nécessaire, parce que autant cette bibliothèque numérique, elle est accessible sur le web, elle est accessible à tous les citoyens qui peuvent s'en emparer, autant quand on rentre dans cette problématique d'exploitation et d'analyse des données, il faut construire d'un point de vue scientifique on a affaire à un nouvel objet épistémologique avec le numérique, et on le voit en particulier dans le domaine des archives de l'Internet. Les chercheurs qui étudient ces archives ont passé plusieurs années, quand ils ont commencé à s'intéresser à cet outil, à définir les méthodologies avec l'aide, bien sûr, des bibliothécaires qui les avaient constituées pour comprendre comment cet objet fonctionnait, quels pouvaient être les biais, etc. Donc un rôle de la bibliothèque qui est un rôle de soutien, d'aide à la découverte et à la compréhension des collections, pourquoi on a collecté ceci plutôt que cela, comment cette collection a été élaborée et puis comment est-ce que cette collection peut devenir un objet pour la science. Mais le tout dans un contexte qui n'est pas seulement un contexte scientifique, qui est le contexte d'une bibliothèque nationale et qui rend également légitime d'autres usages que ceux que les usages de recherche, des usages de création par exemple, des usages pédagogiques, des usages techniques. On a des chercheurs en informatique qui s'intéressent à nos collections parce que leur profondeur chronologique et leur diversité en fait un défi plus intéressant pour inventer de nouveaux algorithmes, des usages créatifs, artistiques, ludiques, enfin tous ces usages sont légitimes dès lors que ce sont des usages citoyens. Donc voilà, je voulais juste terminer sur le processus de patrimonialisation qui a été étudié par les anthropologues de la culture à la fin du XXe siècle et qui ont ramené dans cette notion de patrimonialisation pas seulement la patrimonialisation institutionnelle dont j'ai parlé à travers la loi sur le dépôt légal dit ce qui fait patrimoine, mais aussi une patrimonialisation par l'émotion, par l'intime. Et finalement, ce qui va changer avec le web et le numérique, c'est que le participatif devient un moyen d'appropriation des collections numériques, ce qui va motiver les usagers à venir, par exemple, corriger l'OCR de documents numérisés. C'est de pouvoir contribuer à faire patrimoine, participer à la création de cette bibliothèque numérique et avoir une relation intime avec ce patrimoine qui est une expérience du passé. Et du coup, la science participative, eh ben, finalement, elle va contribuer pour nous à créer le patrimoine et à faire patrimoine autant qu'à l'utiliser. Alors si je peux prendre encore une minute, puisqu'il ne faisait que 6 minutes, le sablier. ce que pourrait apporter une structuration du réseau autour de ce sujet pour nous, pour la BNF, Olivier Baud mentionnait la confiance, et moi je l'avais aussi noté, c'est la légitimité et la confiance qu'un réseau comme celui-là pourrait nous apporter quand l'objet de la science participative, c'est de créer des données de produire des données qui vont être amenées à intégrer les collections ou les métadonnées de la bibliothèque. Un deuxième point, ça serait l'analyse de ces nouveaux usages du patrimoine dans un cadre plus large pour comprendre comment ces usages structurent la relation de la société à son patrimoine, aussi bien comment elle le constitue et comment quel usage elle peut en faire. Et je pense que pour une bibliothèque nationale, il y a tout simplement un enjeu de société pour une institution qui se veut plus que jamais au service de tous les citoyens et qui se pose la question de son impact sur tous les citoyens français.
Bien, je surveille le petit sablier vert. Alors moi, je dirige un centre de culture scientifique technique industrielle qui s'appelle le Dôme, qui est à Caen, et qui a fait le pari de se construire intégralement sur la question de la participation directe des publics dans des démarches de recherche participatives avec l'entreprise, avec les chercheurs, avec le territoire. Donc c'est un objet un peu nouveau dans la médiation scientifique. On s'en dépatouille comme on peut et on essaie d'avancer sur ces questions-là. C'est pour ça qu'on est partie prenante de ce réseau Participarc, parce que ça nous semble indispensable de nous enrichir de toutes les démarches qui sont déjà faites. Je ne vais pas tellement vous parler du Dôme, parce que c'est passionnant, mais ça ne va pas être le sujet du tout. Je vais plutôt vous parler de comment, quel serait l'intérêt pour moi d'un réseau qui ferait suite à Participarc ou qui serait la prolongation de Participarc, parce que ça fait 18 mois qu'on travaille ensemble. Donc on a noué des relations de qualité, on a produit, je crois, un travail intéressant. Mais moi, je suis là pratiquement pour une seule question, c'est que s'il y a des recherches participatives, c'est qu'il y a des participants, et que s'il y a ces participants, ce sont des citoyens. Et c'est donc une démarche un peu de massification de cette participation qui m'intéresserait à travers le réseau. Parce qu'on peut tout à fait continuer le travail qu'on fait actuellement dans nos échanges, dans nos réseaux tels qu'ils sont constitués aujourd'hui. Ça en soi, ça fonctionne. La question que je poserais à un réseau organisé, c'est est-ce qu'on peut passer à l'échelle, vraiment ? Est-ce que se mettre ensemble nous permettra de toucher davantage de personnes dans ces démarches ? Là, je vais me rapprocher très vite de ce que disait Sylvain Rotillon tout à l'heure, c'est-à-dire que je suis comme lui convaincu que ça passe par la question de pourquoi les gens participeraient. Qu'est-ce qui fait qu'ils participeraient ? Parce que si on ne se pose pas cette question dès le début, on va créer énormément d'outils ou de dispositifs qui ne trouveront pas de public, ou alors qu'ils le trouveront dans une sphère qui est la nôtre, celle qu'on connaît déjà, et qui est importante, mais qui ne touche pas la totalité des publics qui sont censés être participants. Donc pour moi, se pose immédiatement la question de faire médiation autour de ces questions-là et de reparler de médiation scientifique et de médiation culturelle avec les communautés de chercheurs, avec les communautés des agents publics qui travaillent sur ces questions, avec même l'entreprise, pourquoi pas, lorsqu'elle intervient sur les champs de recherche et d'innovation. Donc moi, dans ce réseau, j'essaie de lui trouver un sens à ce réseau. Et ce premier sens, pour moi, ça serait de permettre une véritable démocratisation de la démarche participative, pour le dire autrement. Ça veut dire qu'il faut s'intéresser aux usagers vraiment en amont. L'autre intérêt qu'on pourrait trouver, c'est de rendre visibles des démarches de recherche participative, parce que nous connaissons le sujet, en gros, mais c'est un grand inconnu pour beaucoup des concitoyens. Alors, les exemples qui viennent de nous être cités, je pense notamment au Poilu, sont d'excellents exemples de massification, enfin en tout cas de donner à voir quelque chose qui est compréhensible par le public. Et puis, donc il faut repérer des sujets un peu moteurs comme ça, sur lesquels on pourrait s'appuyer. Et le troisième point, ouais, chouette, j'ai gagné, non, si tu n'avais pas oublié de le lancer. Le troisième point, c'est bien sûr l'activité habituelle d'un réseau, c'est faciliter les échanges, faciliter les méthodologies communes, les transferts de données, etc. Ce qu'on attend d'un réseau professionnel classique, auquel la dimension juridique d'ailleurs doit être assez importante dans ce sujet-là, parce que c'est un des sujets qu'on a un peu mis sous le tapis quand même dans le travail, parce qu'il est particulièrement complexe et qu'il faut absolument le traiter. Je vois quelques conditions de réussite à un réseau de ce type-là. Bien sûr, je vais le regarder à l'aune de ma profession, et donc je vais plutôt avoir tendance à me dire comment on réussit la massification. Pour moi, à l'évidence, il faut s'appuyer sur le réseau des acteurs qui, par capillarité territoriale, maille notre territoire national. Il y a énormément d'acteurs avec lesquels on peut travailler et je pense qu'ils ne sont pas du tout mobilisés sur la question des sciences participatives. Hein. Alors ça va des enseignants à beaucoup d'associations ou aux gens de notre milieu. Là, je vois mon collègue Raphaël Degène qui est là d'un CCSTI, mais on est très peu nombreux par rapport aux 250 structures du réseau MSTI qui étaient la semaine dernière réunies. Donc on est très loin d'avoir mobilisé tous les acteurs qui peuvent contribuer à cette mise en réseau et qui puissent se faire aussi les diffuseurs de vos projets. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut cartographier mieux nos méthodes. On a commencé à le faire dans Participarc. C'est-à-dire, on ne fait pas du tout les mêmes types de recherches participatives. Moi, je travaille sur les démarches de Living Lab, par exemple. Donc, c'est un obscur truc des sciences participatives. Donc, c'est de la démarche itérative avec des publics sur des projets de recherche et d'innovation. Peter travaille dans le domaine de la création, dans ces choses-là. Il y a beaucoup de projets autour de la contribution. Bref, on ne travaille pas du tout avec les mêmes outils et on risque de ne pas se comprendre parce qu'on va parler tous de quelque chose qui n'est pas la même chose que le voisin. Donc moi je proposerais, Anna a commencé le travail dans le rapport, de faire une cartographie qui situe, non pas pour opposer ou pour dire que c'est différent, mais simplement dire que c'est pas tout à fait pareil et que si on veut pouvoir travailler ensemble dans un réseau, on va déjà se rapprocher de ceux qui utilisent des méthodes relativement similaires pour pouvoir partager cette expérience et puis la faire grossir. Et peut-être que certains vont se dire, bah tiens, je suis là actuellement, ça serait bien que je sois là. Qui je peux contacter, qui fait ça et vers qui je peux me tourner. Moi, je ne sais pas faire de la contribution pour constituer des datas, par exemple. Donc, ça m'intéresse de travailler avec des gens qui font ça. Mais pour ça, il faut les repérer. Donc, je pense que l'intérêt d'un réseau, c'est de mieux cartographier les méthodes. On pourrait également intégrer davantage ça dans les parcours de formation. Ça a été dit tout à l'heure, mais ça passera par la formation continue à ces choses-là, et notamment d'intégrer la démarche de médiation. Encore une fois, je pense qu'on... C'est très compliqué pour moi d'imaginer des processus de sciences participatives sans qu'on ait pensé la médiation avec les publics. Hein. Je ne sais pas comment on peut le faire, parce que sinon c'est de la diffusion pour moi de connaissances, ce qui est très bien, hein. Mais ça ne va pas faire participation, ça. Ah, j'ai fini. Bon, ce sera pour les questions, le reste. J'en garde un dernier quand même, c'est la reconnaissance, puisque Sonia en a parlé tout à l'heure. Je pense qu'avec la participation des publics, il faut reconnaître la participation de ceux qui vont s'impliquer dans les processus avec nous. Reconnaissance symbolique, évidemment, peut-être pas seulement, mais en tout cas reconnaissance symbolique sûrement, les open badges étant un des outils qui permettrait ça, mais il y en a certainement d'autres, et ça, ce sera pour les questions.
Merci.
Donc,
Romain Julia. Merci. Donc moi, je ne suis pas un acteur de la recherche culturelle, donc je ne vais pas vous raconter ce que je fais. Je vais faire peut-être deux réflexions. Ce projet Participarc, qui s'est nourri et dans la filiation du rapport Houllier sur les recherches et sciences participatives. Comme Frédéric l'a rappelé, c'est un exercice aussi qu'on avait fait au muséum de discuter entre recherche participative, sciences participatives et de voir les convergences qui pouvait y avoir entre ces démarches. Et c'est une hypothèse, cette hypothèse de convergence sur laquelle on a travaillé finalement au cours de Participarc, et que je vois un peu reprendre une certaine forme de distance dans les vocabulaires ou les définitions qui sont associées. Et je voudrais mettre le point là-dessus. Il y a des niveaux de participation, c'est surtout pas de la hiérarchie, hein, mais il y a le niveau 1 où on prend des données, 3, 4, là on codéfinit les questions. Il y a des choses très simples quand on demande aux participants des données, puis des choses qui sont plus engageantes que la codéfinition des questions, etc. Cette hiérarchie, je trouve qu'elle est assez elle peut être assez nous emmener sur des voies un peu stériles. Et une autre façon de voir les choses, c'est peut-être dans la manière dont on mène des recherches. Il y a cette forme de recherche déductive et le récit qui va avec. On se pose des questions, on met en place un protocole, on collecte des données, on va les chercher. Effectivement, se poser la question, c'est le début, c'est le plus important. Mais il y a bien d'autres manières de faire la recherche, une manière beaucoup plus inductive où finalement, c'est les questions et les données, pardon, qui vont faire émerger des questions. Et quand on regarde les formes dans lesquelles les sciences participatives, dans lesquelles Viginature, par exemple, est impliquée, même si on raconte qu'on se pose des questions au départ, en fait, les questions, elles émergent des données qui sont collectées. Et en quelque sorte, on est complètement sous contrôle des participants. Ils collectent les données qu'ils souhaitent collecter, ils y mettent la qualité qu'ils souhaitent y mettre, et ils continuent à les collecter que si on répond aux questions qui se posent. Donc la forme un peu de finalement cette intégration entre cette participation, cette relation entre le participant et le chercheur, selon qu'on est dans cette forme inductive ou déductive de recherche, on la considère pas de la même façon. Et il y a toute une forme de science participative qui effectivement est, je crois, bien adaptée à ces situations où finalement on manque de données pour se poser des bonnes questions. Et c'est cette coproduction de données qui va nous permettre collectivement de poser des questions et de reprendre le fil de la recherche. Donc ça, c'était le premier point, éviter de cette hiérarchie qui ne me semble pas être très, 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 très intéressante. L'autre point, c'est cet engouement pour l'intelligence artificielle, cette injonction à en faire, qu'on voit du président du CNRS, de Sorbonne Université à côté, de un peu partout. Alors évidemment, quand il y a une des formes des sciences participatives qui produit de la donnée, beaucoup de données, et qui se prête bien à nourrir ces algorithmes. Mais là aussi, il y a des synergies possibles, la relation entre l'humain et la machine, et on peut le faire ça très intelligemment, et il peut y avoir des choses intéressantes. Mais l'intelligence artificielle, elle vient prendre les données, et puis les mouliner, et puis nous renvoyer de l'information, des injonctions d'achat, de toutes sortes de choses. Là où la science participative, telle que je l'imagine, c'est que le participant maîtrise les données qu'il produit, maîtrise l'information et les connaissances qu'on en tire, et donc à ce fameux empowerment qu'on a dit, acquiert des compétences à partir de cette participation, et va finalement résister, en quelque sorte, à ce mécanisme d'intelligence artificielle ou de big data. Et en plus de cette synergie, je vois aussi les sciences participatives comme une forme de résistance à l'intelligence artificielle, et du coup je la baptiserais bien intelligence collective, comme une complémentarité à ça. Donc ça, c'est un autre point, une autre réflexion d'éléments peut-être de structuration. Cette façon de faire, ces principes, ils sont issus de notre expérience au muséum, de ce projet 65 millions d'observateurs que vous avez vu en filigrane, qui devient un peu une offre d'accompagnement pour des projets, tout particulièrement dans cette situation de recherche inductive où les données vont générer des questions et où ces données sont coproduites avec les participants et font bien commun pour définir, identifier ces questions. Voilà, et donc cette offre, ce service d'accompagnement, eh bien, c'est notre apport à cette structuration des démarches participatives, des sciences participatives, des recherches participatives, autant que de besoin.
Merci à tous. Donc avant de prendre les questions, juste, peut-être moi ce que j'ai entendu qui m'a intéressé pour ce que pourrait être la structuration, j'ai entendu monter en compétences, confiance, stabilité. Je pense que c'est effectivement des éléments importants. La communication, travailler sur la communication pour pouvoir travailler avec les participants. Les territoires, la formation continue. De nouveaux projets, par exemple, sur les analyses des nouveaux usages du patrimoine, et puis cette intelligence collective que l'on produit avec les sciences participatives et que l'on peut produire aussi avec un réseau. On va continuer avec les questions. Hugo, alors vous ne le voyez pas, hein, certains ne le voient pas, mais ce n'est pas parce qu'ils sont cachés, c'est juste parce que les ordis sont attachés à des fils.
Bon, donc c'est la fin. On a quelques propositions intéressantes. Alors vous allez nous dire ce que vous en pensez. Donc une personne qui nous dit il faudrait créer un label ou un signe de reconnaissance pour les lieux ou des acteurs, associations, collectivités qui pourraient relayer, sensibiliser, donner des formations, des actions de sciences participatives de tous ordres. Donc un label. Qu'est-ce que vous en pensez?
Un label aux personnes qui...
Pour les acteurs ou des lieux, pourquoi pas.
D'accord. Labellisation, est-ce que c'est quelque chose... On en a parlé tout à l'heure, Sonia en a parlé, labellisation. Est-ce que c'est quelque chose ou est-ce qu'il faut... Ben... Moi, je dirais labellisation versus ouverture ou un portail qui permette d'avoir accès aux...
Disons qu'un label va venir sur mes 10 labels que j'ai déjà et un réseau va venir sur mes 10 réseaux. En fait, c'est l'éternel problème, c'est que à chaque problématique, on va répondre par un label ou un réseau et il faut effectivement essayer d'inventer quelque chose qui soit davantage croisé. Je n'ai pas forcément la réponse. Hein. Moi, je crois beaucoup à la proximité pour ça. Enfin, il y en a plusieurs personnes qui ont évoqué la question de la rencontre physique. Et je crois beaucoup au fait que ça doit passer par des rencontres physiques, donc des événements sur des territoires. Et c'est un sujet par essence pour moi multi-territoire. Et donc qui peut être dans tous les territoires et synchroniser par exemple des événements autour de ça. On a l'exemple de la fête de la science qui est un temps fort. Bah, pourquoi pas faire profiter de cette occasion-là pour impulser ça, le rendre visible sur le territoire à un moment pour que les gens s'en saisissent. Et en plus, ils auraient la diversité des actions, leur hétérogénéité dont on a beaucoup parlé. Après, un label, pourquoi pas? Mais encore une fois, la question des labels, c'est la superposition et je ne suis pas sûr que ça facilite la communication.
Allez-y, je vous en prie, il y a des micros sur la table et normalement, tout fonctionne. Donc, je ne sais pas qui veut prendre la parole sur...
Moi, je partage l'avis sur le label parce que j'ai l'impression que c'est une notion qui devient assez galvaudée et qui ne donne pas plus de visibilité à une action. Par contre, je suis plus critique par rapport à la création d'un réseau qui viendrait encore en rajouter un autre. Je pense que c'est un outil quand même de structuration et qui pourrait être vu justement à une échelle nationale et à associer des universitaires et enfin des institutions culturelles. Je crois plus en la création d'un réseau, effectivement.
Est-ce que d'autres veulent intervenir? Emmanuel Vermès.
Oui, je pense qu'un label, c'est jamais qu'un outil dans une boîte à outils qu'il faut imaginer pour faire connaître un dispositif. Et je voudrais revenir sur l'enjeu de la légitimité parce que quand un citoyen, mettons lambda, se lance dans une opération de sciences participatives, il faut qu'il se sente légitime à y contribuer. Donc si ce label peut être quelque chose qui aide justement à la massification de la participation en rassurant chacun sur sa légitimité à devenir contributeur de telle ou telle initiative, c'est quelque chose qui peut effectivement aider, mais à condition que ce label soit suffisamment développé et étendu pour faire écho dans ce sens-là, à mon avis.
Merci. Une autre question ou...
Oui, j'en avais une, on a juste déplacé la page. voilà. Donc oui, on avait une autre question assez précise, donc j'espère que ça va vous dire quelque chose. Je vais la lire telle quelle, sinon autrement on pourra imaginer une façon de penser la question. Donc il y a participation aux données, mais aussi il y a participation à la conception des outils qui permettent de traiter les données, qui permettent de récolter les données, les organiser en base de données. Comment situez-vous l'open source dans la stratégie participative dans le cadre culturel? Parce que notamment, on en a parlé tout à l'heure, on avait plusieurs remarques sur le fait d'impliquer les participants dans la naissance même en fait, des projets participatifs, dans la co-construction, à l'élaboration du projet lui-même, et pas forcément nécessairement en deuxième temps. Donc voilà, vis-à-vis de l'open source, du développement des outils eux-mêmes.
Oui, ça
c'est... Je vais commencer. je vais commencer la réponse parce que effectivement. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée que le participatif se joue à tous les niveaux. Et alors là aussi, en parlant de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire du Manum sur cette question, les outils sont des enjeux, j'allais dire, d'utilisation participative, et que la relation utilisateur outil est quelque chose qui doit être anticipé. Si on pense qu'on est sur, il y a des données, il y a des outils et il y a des usages après, alors sans placer le participatif à tous les niveaux, on est à côté de la plaque. Dans ce cadre-là, on va tomber de fait sur les questions, alors au sens large d'open science, d'open source pour les outils même, d'open data pour les données, et qui sont des questions trop sérieuses pour être des questions gérées par la recherche, qui sont forcément des questions citoyennes. Ici, ça, voilà pour ce début de réponse.
Une concrétisation très très tangible de ce qu'on vient de se dire au sujet des outils, c'est par exemple la forme du hackathon qu'on a expérimenté plusieurs fois à la BNF, qui... de par son nom et son positionnement, semble être quelque chose qui est très orienté outillage. On se dit hackathon, c'est pour coder, en fait. Donc les gens vont venir et ils vont fabriquer des logiciels. Et en fait, on se rend compte que ce qui sort principalement des hackathons, c'est d'abord une appropriation de la réutilisation des données qui sont proposées par l'institution qui l'organise. Dans notre cas, on voulait valoriser aussi la réutilisation des données de la BNF. Mais c'est aussi tout un réseau de compétences, c'est-à-dire que ce qui naît d'abord, ce sont des idées. Et pour qu'une bonne idée puisse naître dans le contexte d'un hackathon, il ne faut pas seulement un développeur, mais aussi quelqu'un qui ait une bonne notion de ce qu'on peut faire avec l'outil que le développeur est susceptible de développer. Donc l'équipe la plus, qui a le plus de chances de réussir dans un contexte comme ça, où très vite, en 24 heures, on essaye d'inventer et de réaliser quelque chose, c'est celle qui est capable de combiner des compétences de communication, des compétences de design, des compétences de connaissances culturelles des données qui sont proposées, et bien sûr des compétences de développement informatique, mais qui ne sont qu'un des éléments de cet ensemble.
Sur l'open source, d'autres non? Il nous reste 10 minutes. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Si vous avez des questions, vous levez la main. Si vous... Oui.
C'est une question de forme sur le filtre que pose le fait d'avoir de façon univoque un barrage des questions. Donc c'est pour ça que j'en profite de poser une question humaine en tant que participant. Parce qu'effectivement, on aurait l'affichage en fait de l'ensemble des questions que posent les gens et non pas une synthèse. On passerait pas parce que le prisme culturel et la salle pour apprécier les questions pour dire celle-là, j'aurais bien voulu la poser ou celle-là, je suis d'accord. Non, c'est parce que comme le sujet, c'est... Alors, je voulais vous parler également d'oubli d'une notion qui traverse les esprits depuis la loi NOTRe concernant l'inclusion, en fait, dans la loi de ce qu'on appelle les droits culturels. Donc, en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, on a fait une expérience sur la réflexion sur les droits culturels qui rejoignent les droits humains et qui sont inscrits dans la loi maintenant. Donc, il faut les appliquer, aussi bien les organismes culturels. Et puis la science était un petit peu à côté, et donc on a fait intégrer ce qui est science, éducation populaire dans ce domaine et dans les règlements d'intervention des financements des régions, parce que c'est peut-être bien de parler des droits culturels, c'est la prise en compte des personnes humaines, ce que disait Bruno tout à l'heure. Effectivement, c'est important, les participants. Voilà.
Est-ce que vous voulez réagir sur cette notion de droit culturel ? Bon, en réflexion alors. Est-ce qu'il y a une autre question? Ne me laissez pas toute seule. Alors, une question, mais relativement rapide. Non, mais l'énoncer rapidement.
Merci. Je vais essayer de faire rapide. Moi, je suis issu du monde de la recherche et l'expérience participative qui m'a intéressé d'introduire dans mes recherches m'a amené à m'intéresser également sur la culture du chercheur en France, qui a fait l'objet de plusieurs théories de sociologie de la connaissance. Et je pense que l'intégration des questions de participation et d'une méthodologie participative dans le monde de la recherche va amener auprès des chercheurs à développer des qualités qu'ils n'ont pas aujourd'hui, y compris des dispositifs de réflexion, des dispositifs de connaissance,
Aujourd'hui, un chercheur en sciences sociales, il travaille sur le terrain, mais il travaille aussi en bibliothèque. Et par exemple, aller à l'encontre de personnes qui ne travaillent pas dans ces milieux-là nécessite de penser et de réaliser d'autres dispositifs qui permettent de réaliser une type de recherche participative, et ces dispositifs n'existent pas encore. Donc je pense qu'il y a aussi le design de la participation à penser en tant que, je dirais, dispositif et appareil qui permettent à des processus participatifs d'exister. Je pense aussi qu'il y a des qualités relationnelles et des qualités empathiques qu'il faut développer, et moi j'ai été amené à faire tout ce travail dans mes recherches personnelles pour essayer d'aller à l'encontre des gens qui ne possédaient pas la culture scientifique que j'avais acquise inconsciemment. Donc je pense que ce paradigme participatif, dans le monde de la recherche en tant que tel, il va amener à un bouleversement d'ordre éthique et culturel très important.
Merci. Est-ce qu'il y a des... Oh là, on est haut ici. Des commentaires? Non? Alors, moi, je vais me permettre un commentaire après... Oui, un commentaire étant anthropologue, malgré tout dans notre formation, en tout cas en anthropologie, on a quand même une formation pour avoir des liens avec les personnes et pour pouvoir, c'est quand même la base de notre métier. Et il existe aussi quand même des designs, je ne sais pas si vous appelez ça design, j'en sais rien, mais des outils participatifs qui sont développés. Nous, dans notre laboratoire, on développe la cartographie participative, des formes participatives de débat. En sciences sociales, oui, oui, voilà, ça existe. Et ce qu'il dit, c'est que dans les autres, parce que vous ne l'entendez peut-être pas, dans les autres champs scientifiques, ça n'existe pas. Alors, ce qu'on a quand même vu, nous, dans nos travaux, c'est qu'il y a les scientifiques, il y a les participants, mais entre les deux, souvent, il y a des partenaires. Et des partenaires qui sont des partenaires associatifs, territoriaux, ancrés sur des territoires. Bon, je vois une collègue qui travaille beaucoup avec ses partenaires et qui, eux, ont souvent cette capacité. Et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez parlé de ces partenaires qui nous permettent d'avoir des liens, parce que même en tant qu'anthropologue, j'ai aussi des partenaires associatifs qui me permettent d'avoir accès aux populations.
Peut-être je peux rajouter un petit témoignage là-dessus. Finalement, c'est quelque chose de très jeune. On l'a dit aussi ce matin, c'est science participative et on manque de recul. Ça a l'air d'être du yaka faucon, mais en fait, même les plus élémentaires des projets nécessitent beaucoup de maturation avant de s'y lancer. Il y a un effet grandeur nature qui fait que c'est très difficile d'expérimenter. Ça va prendre ou pas prendre, et ça c'est pas, on peut difficilement faire des essais-erreurs. Donc ce qu'on vous présente à Viginature quand on vous regarde, c'est ce qui a réussi, mais on a aussi beaucoup échoué et beaucoup appris de ces échecs. Peut-être pour illustrer quelque chose qu'on a appris sur le tas. Quand on fait de la recherche, on essaye d'avoir des données le plus indépendantes possible pour pas qu'elle... voilà. Alors quand on fait des sciences participatives, on va vouloir que ces données soient visibles des participants entre eux, pour que finalement ils s'imitent, ils apprennent, ils se conseillent, et donc on change complètement ce qu'on a appris, mais ça a bien d'autres vertus, c'est que ces données, les participants exercent un contrôle qualité sur les données, produisent des données avec beaucoup de valeur ajoutée parce qu'ils mettent des choses qu'on n'avait pas prévues dans ces données à travers les interactions qu'ils y mettent. Et donc on apprend sur le tas des méthodologies qui renversent parfois ce qu'on nous a enseigné en tant que jeune chercheur pour faire de la bonne recherche. Donc c'est quelque chose, un apprentissage assez continu sur ce design des dispositifs participatifs, et une des vertus des réseaux, c'est de pouvoir échanger entre tous ces tâtonnements qu'on fait à droite à gauche.
Oui, précisément, je rebondis sur ce que vous dites, Étienne Armand Amato, chercheur en communication. Une question que je me pose, c'est le rapport à l'altérité et au fait qu'on puisse, en tant que chercheur soi-même, complètement être amené à reformuler et même à changer presque de système de pensée face à l'altérité que constitue l'expert ou le naïf, ou même, parce qu'une fois qu'on est complètement plongé dans son dispositif, dans sa recherche, ben voilà, on est dans son propre eau de bocal, on n'en sort pas. Et du coup, je voudrais savoir si dans la restitution, on peut aussi envisager de déconstruire la propre structure du chercheur pour que ça soit pas seulement une restitution, voilà, nous avons réfléchi, voilà le résultat, mais qu'on puisse aussi mettre à jour les transformations qu'opèrent sur les parties prenantes, mais aussi sur ceux qui opèrent la science de ce type, surprise, sortie de route ou nouvelle élaboration.
Merci. Question difficile.
Je vais tenter un début de réponse. C'est vrai que nous qui travaillons sur les méthodes de Living Lab, ce qui nous intéresse, c'est le process et les mutations en cours de process. Donc ça répond un peu à votre question. C'est-à-dire que nous, il y a les fameuses parties prenantes, les chercheurs, les industriels, les artistes, le public, etc., qui sont associés à une démarche de construction d'un projet de recherche ou d'innovation. Et très souvent, on n'arrive pas du tout au résultat qu'on avait escompté. Et on est parti dans un autre sens. Il faudrait faire de la mesure d'impact presque, parce qu'en fait on tombe toujours sur un autre truc, et ça génère par contre des décisions en matière de recherche ou d'innovation pour les entreprises qui sont très intéressantes, mais complètement inattendues, parce que justement on l'a fait en démarche très amont avec les futurs usagers ou utilisateurs des données, etc. Et donc je ne sais pas si ça répond complètement pour le domaine des chercheurs, mais ce qui est clair, c'est que même les chercheurs qui sont associés à ce type de démarche, ils ressortent pas dans le même état qu'avant, quoi. En fait, je sais pas comment vous dire. Il y a forcément un changement de paradigme.
Et peut-être aussi, comme on voit qu'il y a beaucoup d'évolutions dans les sciences participatives, c'est certainement ce qu'il faut encourager aussi, c'est toutes les études réflexives ou d'autres chercheurs sur ce qui est en train de se faire en participatif. Alors, ça veut pas dire que les chercheurs n'ont pas une réflexivité quand ils font du participatif, évidemment, parce que c'est aussi bien d'être dans l'action et puis d'avoir un recul sur ce qu'on fait, mais ça veut dire aussi que ces regards extérieurs sont aussi intéressants pour comprendre comment ça transforme le chercheur, comment ça peut transformer les participants, comment le projet, parce que c'est un processus, moi je dirais qu'un projet participatif, c'est vraiment un processus en cours et un processus qui se transforme au fur et à mesure des interactions entre les individus, et aussi comment ça peut transformer ses partenaires qui ont aussi à la fois un autre regard sur les participants et sur le chercheur. Donc ces analyses, elles sont vraiment extrêmement intéressantes et elles sont certainement à encourager. Bon, ben écoutez, je vous remercie pour votre participation.